BFM Business, BFM Crypto, les pros. Antoine Larigaudry.
Et comme tous les vendredis, on se pose, c'est les pros des cryptos. On refait le point sur toute l'actualité des cryptos et elle a été franchement assez turbulente, hein, comme sur les marchés. Les cryptos sont effectivement pas en reste. On est en direct avec Alexandre Baradez d'IG qui est présent sur le plateau. Bonjour, avec Antoine. Nous. Bonjour. On sera dans quelques instants avec Alexandre Stachenko, directeur stratégique de Bitstack. Bonjour. Bonjour. Et Thibaut Boutroux qui est avec nous en visio, Thibaut Boutroux de Meria, qu'on rejoindra tout à l'heure. Déjà, peut-être faire un point sur les points graphiques. Vous avez l'habitude, dans les pros des cryptos, on commence par un point technique sur le cours des grandes cryptos. Alexandre Baradez, malgré quand même un contexte très, très tumultueux, on a un Bitcoin qui tient relativement bien le coup. On perd quoi ? On perd 5% sur 5 jours, c'est pas grand-chose. On sent que les cours s'accrochent à ces niveaux techniques là en ce moment.
Oui, effectivement, on a un actif qui est quand même résilient depuis plusieurs semaines désormais. Le point bas touché avant dans la phase de chute, quand on a dépassé ou atteint les 50% de baisse, ce point bas, on ne l'a pas revu depuis. C'est-à-dire qu'on a quand même un creux qui semble vouloir se former dans cette zone depuis déjà plusieurs mois, on peut compter 2-3 mois déjà de résilience. Et ensuite, c'est effectivement un niveau technique. Alors c'est vrai que niveau technique tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose, mais niveau technique, si on ajoute à ça certaines stratégies potentiellement de flux qui peuvent apparaître depuis quelques semaines en inversion de ce qu'on a pu voir pendant plusieurs mois, là, ça a plus de sens. Alors, le niveau technique, c'est quoi ? C'est la zone des 60 000 $. Ça, c'est très clair. C'est des niveaux. Alors, c'est l'origine du niveau. Il faut revenir à 2021-2022. Il y a eu des records battus à l'époque, des gros creux, deux grosses respirations. Il y a des niveaux qui passaient par là, qu'on a prolongés, qui ont été retestés quelques années plus tard à plusieurs reprises. Donc, il y a à la fois un vrai niveau technique qui est sur la zone 60 000 $, c'est un niveau qui est très fort d'un point de vue graphique, qui est placé aussi à 50% de baisse. Donc il y a aussi un côté un peu psychologique. C'est-à-dire le Bitcoin, comme d'autres, ont retracé de 50, voire plus pour d'autres. Mais la zone psychologique des 50%, je pense, compte aussi. Et puis, il y a ensuite un phénomène qui est inverse. On commence à en parler un petit peu, un phénomène inverse à ce qu'on a observé pendant des mois. On rappelle que dans toute la séquence de baisse des actifs, c'est les cryptos qui ont baissé en premier. L'alerte a été anodine à l'époque. On se souvient que c'était au moment où Trump avait voulu remettre en place les droits de douane sur la Chine. C'était en plein mois d'octobre, vendredi après-midi. Il avait dit 100% de droits de douane pour la Chine. Et les cryptos avaient commencé à baisser à ce moment-là. Et puis l'incendie s'était propagé. Et ensuite, d'autres actifs ont suivi le mouvement. Plus récemment, les actions qui ont accéléré. Il y avait effectivement une stratégie qui était évidente dans le marché, c'était long gold et short bitcoin. Et ça, on l'a vu pendant des mois et des mois. Et ce qu'on commence à observer depuis quelques semaines, c'est que l'or, avec les événements en Iran, un dollar qui s'est fortement redressé, les taux qui sont redressés, et puis probablement, je pense, des questions de flux, de marge aussi, des positions débouclées volontairement ou involontairement.
Pas mal de gros investisseurs qui vendent, hein.
Voilà, sur le gold, exactement, pour dégager la liquidité et obtenir un peu de marge. On a plus fait de menaces sur les cryptos, en tout cas sur le bitcoin, parce que la purge est déjà passée, et probablement qu'il y a des stratégies, même spéculatives, qui se mettent en place dans l'autre sens, à savoir long bitcoin et short gold, et c'est ce qu'on a pu voir, je pense, sur les 4 semaines depuis le début de l'intervention militaire en Iran.
Ouais, un point intéressant effectivement, alors que l'or effectivement a subi des dégagements, continue de subir des dégagements. La dernière nouvelle, c'est une vente d'or importante de swap réalisée par la banque centrale turque, justement pour dégager du cash. Alors cette semaine, l'actualité crypto évidemment a été dense autour de l'actualité des stablecoins, mais pas seulement. Il y a eu des remous à Washington, des remous réglementaires, des signaux d'alarme du côté des mineurs de crypto et un marché qui tire dans tous les sens. On va démêler ça ensemble. Deux grands événements ont dominé l'actualité. D'un côté, la bataille législative autour du Clarity Act autour des États-Unis qui menace directement le modèle de rendement des stablecoins. De l'autre, une affaire qui fait du bruit, c'est Circle, l'émetteur de l'USDC, qui a gelé les fonds de 16 entreprises sans vraiment s'en expliquer. Et pendant ce temps, on a les mineurs de Bitcoin qui sont sous une pression financière particulièrement forte. Bref, une semaine où les vraies questions ont ressurgi. Peut-on vraiment faire confiance aux stablecoins ? L'écosystème crypto est-il en train de se fragiliser ou de se structurer ? Les pros des cryptos, l'actualité. Actualité crypto en 20 minutes, c'est parti, allons-y.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Alexandre Stachenko de Bitstack et Thibaut Boutroux de Meria nous ont rejoints. On va commencer peut-être avec le Clarity Act du côté du marché des stablecoins. Un sujet qui a animé tous les débats à Washington. Alors, le Clarity Act, c'est un grand projet de loi américain qui va structurer le marché des cryptos. Un compromis a été trouvé. Alors, une clause qui fait beaucoup de bruit. Les stablecoins ne pourront plus verser de rendement passif. En clair, si vous détenez de l'USDC et que vous ne faites rien avec, vous touchez plus d'intérêt. Coinbase a aussitôt retiré son soutien au texte. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui utilise des stablecoins aujourd'hui et pourquoi l'industrie réagit-elle aussi mal?
Alors, pour avoir un peu de contexte, effectivement, le Clarity Act, il s'inscrit dans une démarche réglementaire qui avait été initiée par Trump dès le début de son mandat. Il y avait eu le Genius Act précédemment, là, il y a le Clarity Act. Le but, c'était d'offrir cette fameuse clarté, donc clarity réglementaire aux acteurs crypto-américains, parce que effectivement, nous, en Europe, on a toujours d'abord, on veut réguler, et ensuite, ce sera clair, on verra ce qui se passe. Aux États-Unis, c'est plutôt fait, et puis, quand il y aura un problème, on régulera. Donc là, en l'occurrence, l'industrie crypto aux États-Unis, elle commence à avoir une bonne quinzaine d'années, donc il commençait à y avoir des vraies questions, des acteurs comme Coinbase qui ont fait des énormes IPO qui se trouvent de la taille parfois de certaines banques, donc c'est plus possible de laisser la chose sans clarté. Donc il y avait eu ce premier texte l'an dernier, là il y a le Clarity Act qui vient dire effectivement on va encadrer notamment les rendements sur les fameux stablecoins. Alors les stablecoins, ils ont un vrai cas d'usage sur la partie paiement, envoyer de l'argent international, c'est beaucoup plus rapide de le faire en 10 secondes avec un stablecoin plutôt que de passer par une banque correspondante à l'étranger avec des jours ouvrés de virement, etc. Et sur la partie rendement, les acteurs s'étaient positionnés en disant, bah, en fait, on va proposer comme des comptes dollars et les gens pourront stocker des dollars dessus et on donnera du rendement. Et en fait, évidemment, d'un seul coup, c'est énormément attractif par rapport à des comptes courants non rémunérés dans les banques. Donc, la peur que ça crée côté bancaire, c'est que c'est d'une certaine façon de la concurrence déloyale.
Oui, voilà.
Pourquoi ils ont le droit d'offrir des rendements comme ça sans donner, entre guillemets, la structure du risque qu'il y a derrière? Ça ne génère pas comme ça de l'argent tout seul, le rendement. Donc, est-ce qu'on peut clarifier ça? Et en l'occurrence, la clarification a été donnée. Vous n'avez pas le droit de fournir du rendement sans qu'il y ait d'action de la part du client qui pourrait dire, bah, OK, j'ai envie de prêter mon argent, donc je suis prêt à prendre un risque pour avoir un rendement en face. Et donc, pour toute une partie de l'industrie pour qui c'était un acquis de se dire maintenant on peut donner 2%, 3% gratuitement, eh bien, ils vont devoir revoir leur offre de service parce que d'un seul coup, ça redevient plus du tout attractif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière ce débat qui peut sembler très commercial, finalement, il y a évidemment une influence du lobby bancaire.
Il y a du lobbying,
c'est exactement, c'est super, mais c'est on en parlera peut-être juste après. Mais d'abord, c'est qu'il y a un vrai sujet de fond qu'on peut même calquer sur le débat qu'on a en Europe sur l'euro numérique, c'est qu'à partir du moment où effectivement on a de la monnaie avec beaucoup de guillemets mais de même qualité que la monnaie centrale ou numérique de base, dès qu'elle sera plus attractive, que ce soit par un rendement par exemple, eh bien ça va créer un risque systémique qui est que personne ne veut rester sur son compte courant. Et si vous sortez de votre compte courant pour aller chercher 1%, 2%, 3% ailleurs, les banques, elles disent mais moi je suis le pilier de l'économie, sans moi il n'y a pas de crédit, sans moi il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de... Donc si vous m'enlevez tous mes actifs sur mon bilan, l'économie s'effondre, c'est plus possible. Et donc ça démontre quand même, il y a un côté à la fois sain, bah c'est le rôle des banques de faire du crédit, mais pas sain, ça montre un peu l'effet de levier monstrueux qu'il y a dans l'économie où il suffit de faire un produit attractif pour que les banques disent attention, on va faire s'effondrer l'économie parce que les gens vont s'en aller de mon compte courant.
Et c'est marrant comment ce débat sur les technologies crypto fait renaître des questions essentielles de l'économie, quoi, finalement. Thibaut Boutroux, une petite réaction là-dessus aussi, est-ce que ça change la donne ce Clarity Act?
Non, bah pour compléter ce que vient de dire Alexandre, c'est que en fait, bah du coup, il y a effectivement la partie bancaire qui tient ce propos de défense, mais en réponse en fait par rapport à la position qui a été tenue, bah du coup, on a l'industrie crypto qui se dit bah attendez, moi du coup, vous m'enlevez aujourd'hui ce que Coinbase a qualifié comme son produit le plus attractif, vous me privez de mon produit le plus attractif, comment je vais faire pour attirer des nouveaux utilisateurs, comment on va faire pour faire basculer du monde de l'autre côté. Donc il y a ce jeu d'équilibre qu'il faut trouver. On est sur une version du texte qui, à mon avis, va encore évoluer parce qu'il y a encore une ambiguïté qui persiste. Justement, on a parlé de rendement passif, mais il y a le rendement d'activité. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le rendement d'activité? Tout ça, c'est pas encore tout à fait clair. Ouais. Donc, il va y encore avoir des débats. Il va y encore avoir beaucoup de lobby des deux côtés. Donc, il va falloir suivre ça avec attention parce que c'est certain que l'issue va avoir un impact sur comment le marché va évoluer, que ce soit côté bancaire, que ce soit côté crypto. Et pour le coup, les deux ont des arguments à faire valoir qui sont tout à fait légitimes. Donc, ça va être intéressant à suivre.
Puis Alexandre, il y a un effet direct, c'est que l'action Circle a pris l'impact de tout ça. Puis alors, violemment, ça a perdu 25% en une semaine. la réaction a été violente et on sent qu'il y a une attaque directe en fait.
Oui, je pense que le marché avait pricé le fait que le lobbying allait fonctionner et que Donald Trump était plutôt en faveur des cryptos, donc finalement que la loi allait passer, et puis patatras, en fait non. Et donc il y a eu un dépricing de dire en fait c'est pas si acquis que ça. Et donc on va revenir en arrière, puisque effectivement si d'un seul coup on apprend que le produit le plus rentable ou le plus attractif d'une entreprise n'est plus légal, c'est sûr que forcément ça doit avoir un impact sur le prix de l'action, que ce soit côté Circle avec l'USDC ou Coinbase, qui est évidemment très très lié à Circle dans l'offre de services autour de l'USDC. Mais pour moi c'est vraiment cette chose là qui est très importante, c'est derrière ça ce que ça veut dire sur l'attractivité des produits et le fait que ça n'interdit pas par exemple d'offrir du rendement tout court. C'est pas le principe du rendement qui est mis en défaut, c'est le rendement passif sans transparence, on va dire, sur les utilisateurs. Et ça, d'une certaine façon, et vous m'entendrez pas souvent être plutôt du côté du lobby bancaire, je trouve ça, il faut quand même rappeler aux auditeurs, il n'y a pas de rendement sans risque. Et donc aller sur une plateforme qui vous dit oui t'inquiète, voilà 3 ou 4% et derrière c'est pas ton souci, voilà. Il y a un côté quand même, c'est sain de dire d'où vient le risque. En l'occurrence, si jamais c'est prêté à un prime lender, si c'est prêté dans la DeFi, dans un vault, sur un protocole, etc., on est en train de faire des risques qui se factorisent. Hein. C'est pas additif, c'est multiplicatif. Oui. Vous êtes sur un vault qui prête à quelqu'un, sur un protocole qui lui-même est pas sûr, utilisant un bridge, attention. Donc voilà, il faut être transparent aussi sur les risques qu'on propose quand on a des rendements sur stablecoin.
Ça vous évoque quelque chose, ça, Alexandre Baradez? Je suppose que vous regardez la crypto, vous faites des analyses sur à peu près tout. Oui. Mais ce changement de paradigme violent qui arrive régulièrement dans le monde des cryptos, c'est quelque chose qui doit être difficile à appréhender pour des acteurs qui sont à la fois actifs sur la crypto, mais aussi sur la finance classique.
Oui. Alors moi, j'avoue que je regarde ça sous l'angle toujours classe d'actifs. C'est-à-dire pour moi, les cryptos, c'est devenu une classe d'actifs. Je suis beaucoup moins dans le détail que Alexandre, mais c'est une classe d'actifs. Qui n'est pas énorme en fait, en termes de taille. On avait culminé à peu près à 4000 milliards de dollars ou d'euros au sommet. On a été divisé par deux depuis la correction. On rappelle que par exemple, 4000 milliards, c'est ce que pèse Nvidia. Alors oui, c'est une très grosse valeur, mais c'est qu'une seule valeur. Quand vous regardez un SP500 par exemple, le gros indice américain, le plus gros indice mondial, il pesait avant la correction un peu plus de 60 000 milliards de dollars. Donc finalement, la classe d'actifs crypto reste assez faible, assez petite en termes de volume. Et c'est pour ça que les corrections de l'ampleur de celles que nous connaissons, 50%, on a souvent entendu dire, et ce qui est vrai, et ça c'est un argument que je remets sur la table, que plus la classe d'actifs devenait mature, plus elle avançait dans le temps, plus la volatilité historique allait diminuer. Ça n'empêchera pas qu'il y aura des vagues de volatilité, mais 80% qu'on a pu connaître à plusieurs reprises dans le cycle jusqu'à présent serait moins revu. Et ça je le crois. Ça, je pense que le fait que cette classe soit plus démocratisée, qu'il y ait plus d'institutionnels qui soient présents, je pense que beaucoup d'investisseurs, ce qu'on appelle les grosses mains, la smart money, seront plus intéressés et sont déjà intéressés pour rentrer sur le niveau actuel et ne vont pas forcément attendre les 70 ou 80% qu'on a pu avoir à l'époque. Après, il y a d'autres questions d'ordre un peu macro à regarder aussi, parce que c'est vrai que souvent sur les marchés on a tendance à corréler le graphique de la masse monétaire avec les cryptos, on essaie de voir s'il y a d'influence. Pour moi, il y a un graphique qu'il faut plus regarder, qui a plus d'importance je pense, c'est celui des bilans de banques centrales. Là on remarque les banques centrales qui avaient largement grossi leur bilan post-Covid, elles l'ont dégrossi depuis 2-3 ans maintenant. Les taux avaient grimpé, puis les taux ont baissé ensuite, et je pense qu'il y a un phénomène qu'on va peut-être voir avec l'intervention en Iran, c'est que les banques centrales peuvent être tentées, on voit que la BCE, de relever un peu les taux, même si je pense que c'est une erreur, hein, point de vue économique, mais de montrer qu'elles sont vigilantes, ça influence d'ailleurs la partie taux et on le voit que ça s'adresse beaucoup, mais pour compenser cet effet ou de rhétorique ou de hausse de taux réel, elles pourraient commencer à réagir un peu sur les bilans. On voit que les bilans ne baissent plus. La Fed avait signalé, le bilan ne baissera plus, donc soit c'est plateau, soit on se redresse. Et je pense que pour compenser...
Ça commence à remonter un petit peu d'ailleurs.
Ouais, ça remonte, exactement. Ça peut remonter. Et ça, je pense, c'est un des éléments qui peut soutenir justement une classe d'actifs qui a pas mal baissé, les cryptos. Puis dernier élément, et je m'arrête là-dessus, c'est la question du... qu'on retrouve les mêmes signaux qu'on avait observé en fin 2021, début 2022. Dans toutes les classes d'actifs, celles qui avaient baissé en premier à l'époque, quand les banques centrales avaient commencé à durcir le ton post-bulle, on va dire Covid, hein, les banques centrales, l'inflation commençait à galoper, les banques centrales relevaient leur discours, eh bien, c'est les cryptos qui avaient commencé à baisser en premier. C'est logique, hein, c'est dans les classes d'actifs, c'est ça qui est toujours perçu comme la plus risquée. Donc, ça avait commencé à baisser à l'époque, et c'était un signe précurseur de ce qui allait suivre sur les actions. Effectivement, le Nasdaq, à l'époque, avait baissé 3 mois plus tard. Ben, là, on a des choses à peu près similaires. Hein. Les cryptos ont commencé à lâcher octobre, novembre. les actions US ont commencé à stagner pendant quelques mois, et maintenant les actions US baissent. Et donc à chaque fois, la crypto est, le, est la classe d'actifs dans les deux grosses corrections récentes qu'on a connues, qui part en premier à la baisse, mais c'est aussi celle qui commence à se stabiliser, parfois un petit peu avant les autres. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez lisible en termes de chronologie des événements, et après 50% de baisse, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs passion et long terme du marché. Et moi, je fais partie, je pense, c'est une vraie opportunité. Faut pas avoir peur si on passe 50 000 temporairement, mais je pense que $60,000, c'est une vraie zone d'intérêt pour un investisseur moyen terme.
À suivre. On parlait de Circle. Il y a un autre dossier qui embête un petit peu l'entreprise. Et ce dossier a un nom que j'ai l'impression que vous étiez assis sur votre écran. il s'agit de l'affaire Zach.
XBT. XBT étant l'autre label de Bitcoin qu'on appelle, soit BTC, soit XBT.
Ouais, XBT. Alors, affaire embarrassante parce que Circle a gelé les fonds de 16 portefeuilles actifs dans le cadre d'une procédure civile américaine sous scellé. Une action que l'enquêteur blockchain, donc Zach XBT, a visiblement considérée comme incompétente. D'abord, c'est quoi cette histoire? Et beaucoup l'ignorent. Est-ce qu'un émetteur de stablecoin peut vraiment geler vos fonds du jour au lendemain? Alors là, on est en plein dans les problématiques sur la dette privée américaine avec les demandes de remboursement qui sont freinées par l'ensemble de l'industrie. Là, on est dans le domaine des cryptos, mais on ne connaît pas la raison exacte.
Ce que ça prouve, alors déjà, un point de préambule, oui, les stablecoins sont censurables. C'est pour ça qu'on répète souvent que, et typiquement, moi, je suis en désaccord régulier sur le fait de qualifier les cryptos d'une classe d'actifs. Pour moi, ce n'est pas une classe d'actifs. Il y a Bitcoin et après, il y a d'autres projets qui, quand on compare un NFT à une œuvre d'art, c'est beaucoup plus cohérent de mettre les œuvres d'art avec les NFT, le Bitcoin avec des commodities et d'autres trucs avec encore d'autres choses. Mais pour moi, ce n'est pas une classe d'actifs. Et une des raisons, c'est que typiquement, une proposition de valeur de Bitcoin, c'est d'être incensurable, on peut envoyer de l'argent à l'autre bout de la planète sans qu'on puisse nous dire non, vous n'avez pas le droit. Un stablecoin, ce n'est pas vrai. Un stablecoin, c'est une entrée dans un registre de quelqu'un qui décide si vous êtes censurable ou pas. Ce n'est pas que ça n'a pas d'avantage, ça a énormément d'avantages. On peut faire des transactions mondiales, pas chères, en dollars, donc dans une monnaie considérée comme beaucoup, beaucoup moins volatile. Mais en revanche, rappelons qu'effectivement, vous restez sous le coup, entre guillemets, d'un régulateur américain. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, et c'est un propos qu'on pourrait tenir de manière plus générale sur la tendance réglementaire depuis maintenant quelques décennies, à savoir que les fonctions maintenant ont d'ailleurs un nom qui est très éloquent, on les appelle les fonctions conformité. L'objectif primaire, c'est d'être conforme. On veut être conforme à ce que dit le régulateur. Est-ce que ça protège l'utilisateur final? Est-ce que ça sert à lutter contre la criminalité? Tout le monde s'en fiche, on veut être conforme. Ce qui est important, c'est d'être conforme. Et donc là, en l'occurrence, il y a une réquisition, alors de moi en plus opaque, c'est-à-dire qu'on dit à Coinbase, à Coinbase, en tout cas pour l'émetteur de l'USDC ou Circle, vous allez geler les adresses des 16 entreprises. Il n'y a pas de question à poser. Vous gelez les adresses des 16 entreprises. Savoir si elles ont fait des trucs pas bien, bien machin, c'est pas la question qui est posée à Coinbase.
Ce sera la justice de le déterminer.
Exactement. Alors, ce que dit Zach XBT, c'est qu'il dit, attendez, parce que là, dans le monde des cryptos, on rappelle un truc, c'est que maintenant, c'est transparent. Donc, on peut tous regarder ce qui se passe. Oui. Et donc, ce qu'on peut prouver, c'est ce que dit Zach XBT, c'est qu'il dit, si on avait fait le début du commencement d'une analyse on-chain et qu'on était remonté les transactions, qu'on avait fait des clusters, qu'on avait regardé, en fait, elles n'ont rien de très problématique, ces adresses. Donc, en fait, il y a une demande opaque de la justice américaine, on ne sait pas pourquoi, de bloquer des adresses qui sont opérationnelles et qui n'ont pas, de façon évidente en tout cas, après je ne suis pas dans le secret des dieux, mais qui n'ont pas de façon évidente quelque chose qui relève de l'illégalité. Et ce que dit Zach XBT, c'est qu'il dit, tiens, c'est bizarre, quand on demande à bloquer des adresses sous une injonction opaque, c'est fait en l'espace de quelques minutes. Par contre, quand il y avait eu des hacks, des choses assez graves, où on avait dit, attention, attention, il y a des adresses qui sont en train de partir avec la caisse, arrêtez, arrêtez, bah, tant qu'il n'y avait pas d'injonction de la justice, Coinbase disait, non, moi, tant qu'il n'y a pas d'injonction, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est ça qui est mis en avant par l'investigateur, qui est de dire, et attention, parce que maintenant, on peut tous vous regarder. Toutes les transactions sont publiques, donc vous ne pouvez plus faire ça sous le manteau.
Thibaut, ce deux poids, deux mesures, là, est-ce que c'est une épine de plus dans le pied de Circle?
Ouais, bah, c'est tout le paradoxe, en fait, de cette affaire. C'est-à-dire que ça met en lumière, d'un côté, Circle, qui est le bon élève au premier rang, qui est régulé avec son USDC. Et de l'autre, on a Tether, qui est au fond de la classe, qui est l'élève un peu plus turbulent, qui a son USDT, qui est pas régulé. Et pour autant, sur cet aspect très opérationnel sur le gel, on a un Tether qui en fait fait beaucoup mieux à tous les niveaux, beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis, beaucoup plus documenté. Ils ont assisté beaucoup d'autorités dans des gels qui était légitime et qui était demandé par la communauté. Là où effectivement Circle, quand il s'agit de protéger un peu des investisseurs, on avait eu le cas il y a pas longtemps sur le gros hack de Bybit où Circle avait pas été en mesure de réagir suffisamment rapidement alors que Tether avait été hyper proactif et ça avait été salué par la communauté. Donc on a d'un côté un acteur qui est régulé nulle part et qui arrive finalement à servir la cause de ses utilisateurs, et d'autre côté un acteur qui est ultra régulé et qui pour autant n'est plus capable de répondre à cette demande opérationnelle. Et pour Circle, c'est vrai que, alors d'un point de vue réputationnel, c'est pas forcément quelque chose que le grand public voit, donc je pense que l'impact réputationnel il sera léger à ce niveau-là. Par contre, d'un point de vue plus institutionnel, Circle vient d'être coté et dans une opération un petit peu de séduction des acteurs institutionnels pour prendre place. Et c'est vrai que là on a d'un côté le Clarity Act qui vient un peu fragiliser ce modèle économique, de l'autre cette affaire qui vient un peu fragiliser son efficacité opérationnelle. C'est vrai que ça fait beaucoup coup sur coup, mais globalement je m'inquiète pas trop pour eux, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup, et on a Tether du coup qui rigole un petit peu de tout ça en disant vous voyez, finalement vos modèles réglementaires sont pas tout à fait efficaces.
On reste sur Tether, donc le concurrent avec l'USDT annonce qu'il va dans le sens exactement inverse finalement. Et là, on est dans le lien très clairement entre l'industrie crypto et la finance réelle, palpable et traditionnelle. Le 24 mars, Tether a demandé à un des cabinets des Big Four pour son tout premier audit complet et indépendant des réserves d'USDT. Depuis sa création, Tether s'était contenté d'attestations trimestrielles que ses critiques jugeaient insuffisantes. Pour les non-initiés, quelle est la différence entre une attestation et un véritable audit? Et pourquoi cette annonce est-elle importante?
Alors, la différence, c'est une différence, je dirais, de degré, pas nécessairement de nature, mais une attestation, c'est très... one shot, on regarde, est-ce que c'est le cas? Oui, et je reviens dans 3 mois. Un audit, c'est quels sont vos contrôles en place? Quelle méthode avez-vous mis en place également pour vérifier que ces contrôles sont fonctionnels? Est-ce que vous avez l'argent? Exactement. Donc c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus 360. On a pas une garantie, mais on va dire une réduction du risque qui est beaucoup plus importante lorsqu'on a un audit réalisé par un de ces fameux Big Four, qui sont les 4 noms les plus connus de la planète pour réaliser ce genre d'opération. Donc ce que ça démontre, alors d'une part, c'est qu'il y a peut-être une bifurcation légère par rapport à une stratégie qui avait été assumée depuis un certain temps. Je rappelle que quand MiCA avait été mis en place en Europe, le patron de Tether avait dit nous, ça nous intéresse pas MiCA parce qu'on considère que ce qu'il y a dans la réglementation est trop dur à obtenir et en plus ne protège même pas les clients finaux. Ça fait écho à la conversation qu'on vient d'avoir avec Thibault, parce que, par exemple, il fallait montrer que les réserves sont détenues dans tant de banques, qu'elles sont dans ces assets-là en particulier. Et le patron disait, oui, mais quand on fait ça, on crée un risque systémique. Donc, d'une certaine façon, la réglementation nous demande de mettre plus de risques. Là, c'est pas le même discours, c'est on va faire un audit avec un Big Four pour essayer de rassurer le marché. Je pense que justement Tether a envie de montrer qu'il peut être l'enfant modèle qui arrive à réunir le juste milieu des deux. On va faire les étapes nécessaires pour montrer patte blanche auprès des institutionnels, parce que Tether est leader, mais se fait rattraper par Circle et son USDC qui a choisi la stratégie de la conformité la plus absolue pour montrer patte blanche auprès des institutionnels. Donc Tether sent qu'ils se font rattraper là-dessus. Ils ont besoin de montrer patte blanche aux institutionnels, donc ils vont un cran dans cette direction-là. Mais je pense qu'ils vont quand même rester attachés à pouvoir avoir cette efficacité opérationnelle et à ne pas, déjà, un, attaquer leur marge avec des contrôles, et deux, de pouvoir continuer de montrer que c'est peut-être plus efficace ou plus efficient ou plus rapide que le concurrent USDC.
Bon, Thibault, si on fait un bilan global du marché crypto depuis le début de l'année, on a le Bitcoin, mais 90% des crypto-monnaies en réalité, voient leur volume s'effondrer. On a l'impression que le marché est en train d'être en pleine voie d'attrition, sauf les tokens qui sont liés à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça commence à devenir quelque chose de crédible, ou est-ce que c'est un petit effet de hype pour le moment, selon vous ?
Ouais, alors plus globalement, effectivement. Alors moi, j'ai un petit peu l'impression qu'on est dans une phase où, comme si c'était un petit peu l'heure des comptes, c'est-à-dire que pendant des années, on a valorisé des projets et des cryptos sur une promesse, sur un potentiel. Et là, on est quelques années après maintenant, et c'est un petit peu comme si c'était l'heure du bilan. Et quand on regarde, et bah les promesses, elles ont été partiellement rendues ou pas du tout rendues. Le potentiel, bah finalement, on se rend compte qu'il y a des nouvelles technologies qui ont émergé ou que finalement le besoin a évolué, et que c'est pas tout à fait ce qui était attendu. Et donc en fait, on a une espèce de rationalisation de ces valorisations, et qui est couplée en plus de ça avec une multitude de nouvelles crypto-monnaie, donc une fragmentation de la liquidité et de nouvelles technologies qui émergent, dont l'intelligence artificielle, qui vient capter une partie de la nouvelle liquidité, une grande partie d'ailleurs de la nouvelle liquidité. Et donc tout ça fait que pour les projets historiques, et ben effectivement c'est très très compliqué de tenir la route, c'est très compliqué de se refinancer pour ceux qui ont une roadmap qui est pas encore tout à fait exécutée et qui auraient besoin d'avoir plus de moyens pour aller voir les étapes d'après. Donc ça donne effectivement un marché qui souffre, avec quelques éclaircies de temps en temps. Donc en ce moment, effectivement, c'est autour de l'intelligence artificielle. Donc voilà, tous les tokens qui sont autour de l'intelligence artificielle tirent un petit peu leur épingle du jeu. Alors attention, parce que surperformer un marché qui est en baisse, ça peut vouloir dire aussi juste perdre un petit peu moins. Mais voilà, mais on a effectivement quelques projets qui s'en sortent bien. La bonne nouvelle dans tout ça, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que pour les investisseurs qui s'intéressent au marché crypto, ça démontre que il y a encore des opportunités, mais qu'il faut être plus sélectif. C'est-à-dire qu'on a Bitcoin qu'on sort de l'équation et qui est un actif qui est totalement à part. Et après, quand on regarde l'ensemble du marché, même si on a l'impression que c'est un petit peu morose, ben on se rend compte qu'il y a toujours finalement des opportunités qui existent. En ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Il y a quelques mois, c'était tout ce qui était autour des pairs Dex avec Aster, avec Hyperliquid, avec Plasma. Et donc là, on a une nouvelle narrative. Alors est-ce que c'est une hype? Est-ce que c'est survalorisé? Très certainement, comme l'ensemble de l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce qu'on valorise un potentiel. Donc très certainement que quand on fera les comptes à la ligne d'arrivée, la majorité des projets seront pas au rendez-vous. Mais en tout cas, ça peut vouloir dire, d'un point de vue investisseur, qu'il reste des opportunités. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça va permettre de ramener aussi de la liquidité un petit peu sur ce marché crypto pour pouvoir ramener un petit peu plus de couleurs.
Thibaut Boutroux de Meria, Alexandre Stachenko de Bitstack et Alexandre Baradez d'IG. Merci de nous avoir fait l'amitié de commenter cette actualité crypto débordante. On aurait pu parler des mineurs aussi qui sont sous pression, mais on en parlera la prochaine fois. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, tant que le Bitcoin reste sur ces chiffres-là, certains mineurs perdent de l'argent. C'est un paradigme toujours compliqué à trouver. Restez avec nous dans quelques instants, on ouvre les portes de BFM Bourse pour 2h30. Restez sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.